Au Grutli, 200 officiers se sont réunis sur la célèbre prairie pour commémorer l'anniversaire de l'historique rencontre du 25 juillet 1940, où le général Guisan exposa son fameux rapport d'armée qui galvanisa la nation tout entière dans son inflexible détermination de se défendre jusqu'au bout.
Nous sommes à un tournant de notre histoire. Il s'agit de l'existence même de la Suisse. Croyez non seulement à notre bon droit, mais à notre force, et si chacun le veut, à l'efficacité de notre résistance.
Voilà, vous l'aurez peut-être reconnu, certainement, c'était le Ciné-Journal Suisse, édition de 1960, quand le pays commémorait les 20 ans du rapport du Grutli, moment clé de la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, quand le général Guisan convoque tous les commandants de l'armée avec comme objectif de remobiliser, d'éviter le défaitisme, d'insuffler un esprit de résistance. Alors en fait, cette année, les 75 ans de cette page d'histoire suisse, quelle mesure peut-on donner aujourd'hui à cet événement? Est-ce un coup de génie décisif du général ou un mini coup d'État jusqu'à susciter l'embarras du Conseil fédéral? Deux historiens sont avec nous pour croiser les regards. Hervé Devecq, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue militaire suisse, et puis Hans-Ulrich Jost à nos côtés dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien professeur à l'Université de Lausanne. Hervé Devecq, le 25 juillet 1940, dites-nous pourquoi est-ce un moment clé d'après vous?
C'est un moment clé parce que la Suisse se trouve dans une situation inattendue, spécialement pour ses autorités politiques et le commandement militaire. Pendant les deux guerres mondiales, le commandement militaire a constaté que notre pays ne pouvait pas se défendre seul contre un adversaire qui voudrait l'envahir avec des moyens importants. Donc dans les deux guerres mondiales, on a eu des plans de coopération avec des États voisins. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, depuis 1936, il y a des conversations avec les Français qui viendraient donner un coup de main, excusez-moi l'expression, à l'armée suisse en cas d'invasion allemande. Cette planification est allée très loin, dans beaucoup de détails, et voilà qu'au mois de juin, il y a la défaite dramatique de la France, l'allié n'est plus là. On a un dispositif qui était fondé sur cette intervention française, défense sur la Limmate en particulier, avec au sud de Bâle des formations destinées à faire la soudure avec l'armée française. Et voilà que brusquement, il n'y a plus d'alliés, on se trouve seul dans un dispositif qui ne servirait plus à rien. Et le général Guisan décide de convoquer ses commandants de troupes au Rutli pour leur insuffler d'abord un esprit de résistance, parce qu'il y a du défaitisme, vous l'avez dit, et surtout pour annoncer sa décision stratégique du repli d'une partie de l'armée dans le réduit national.
Le réduit national, on y reviendra dans un instant. Hans-Ulrich Jost, une prise de conscience des Suisses, tout d'un coup lâchée par le soutien français qui avait perdu face à l'Allemagne. Et merci général Guisan de cette belle initiative.
Oui, il faut un peu distinguer les différents niveaux de l'histoire. Il y a donc une histoire légendaire de ce rapport de Rutli, où l'importance du rapport est évidemment mise en exergue de manière exagérée. Et d'autre part, il y a ce que la recherche historique a pu un peu dégager. Puis là, les aspects sont un peu différents. Il faut effectivement rappeler que du point de vue historique, c'est important parce que le 17 juin, Pétain avait demandé l'armistice, donc la Suisse n'avait plus de belligérants entre guillemets amis, comme mon collègue Devecq vient de dire. D'autre part, il y avait le 25 juin le fameux discours de Pilegola, du conseiller fédéral Pilegola à la radio, qui était considéré comme un discours défaitiste qui cherche l'adaptation en fait au nouvel ordre européen. Et puis donc un mois plus tard, le 25 juillet, d'ailleurs c'était juste 4 jours avant ma naissance.
Ah ben. C'est donc, bien né.
C'est donc ce rapport de général. Or, ce qui est important de dire tout d'abord, à l'époque même, ce rapport avait quasiment pas d'impact. Ce n'est que 4 jours après que la presse parle un tout petit peu. Si on cherche les témoins de l'époque, hein, on a plutôt des réponses très mitigées.
On a fait un mythe aujourd'hui, on a mythifié ce moment-là.
Oui, plus tard, on a mythifié à partir de l'après-guerre. Hein, parce que je vous donne juste une réponse d'un jeune capitaine qui était donc au Rutli. D'ailleurs, déjà, cette petit extrait que vous avez donné est plein de fautes. Hein. Il n'y avait pas 200 officiers, d'ailleurs on ne sait pas exactement le nombre, mais on sait au moins que c'est entre 420 et 400 80. Donc, on ne connaît non plus le contenu vraiment du discours. Il y a un manuscrit de 26 pages, mais qui a été tenu secret par le général et qu'un historien a pu analyser qu'en 1984. Et puis là-dedans, évidemment, sortaient des choses extrêmement désagréables pour le général, mais on ne sait pas si vraiment il a utilisé ce manuscrit et quelle partie qu'il a vraiment utilisée. Alors, vous voyez, c'est difficile à comprendre. Juste un dernier mot encore, dans le rapport aussi entre le Conseil fédéral et l'armée, il faut voir que ce n'est pas un hasard que Guizan a pris le 25 juillet, c'est-à-dire exactement un mois après le discours à la radio de Pilegola, parce que les deux hommes se détestaient.
Donc une minute de pouvoir. Hervé Devec, on va vous faire réagir. Hein. Le général Guizan a quand même pris le pouvoir, pris le dessus, empiété sur l'autorité du Conseil fédéral. C'était dangereux, surtout qu'il avait quand même des velléités, le général Guizan, de se rapprocher du Troisième Reich de Berlin.
Écoutez, là je me pense, une politique de rapprochement, parce que l'affaire de la charité sur Loire, c'était la découverte des papiers concernant la coopération franco-suisse, avait été faite par les Allemands. Donc effectivement, Guizan a proposé qu'on envoie un émissaire prestigieux en Allemagne pour essayer d'améliorer les relations entre l'Allemagne et la Suisse. Mais je pense surtout que le rapport du Rütli, c'est un acte de commandement. Il veut parler à ses commandants. On ne sait pas effectivement exactement ce qu'il leur a dit. Certains ont mal réagi, c'est normal, avec un groupe de 400 officiers, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais il y a aussi de nombreux témoignages qui disent, de lieutenants, de capitaines, qu'ils avaient plutôt une vision pessimiste de l'avenir de la Suisse, qu'après ce rapport, ils ont un peu plus confiance, que le repli partiel de l'armée, c'est en gros un tiers de l'armée dans les Alpes, est une solution qui peut sembler crédible face à la supériorité allemande, parce que on pourrait là détruire les voies de communication alpine, et là l'Allemagne et l'Italie seraient très gênées. Alors je pense que c'est un acte de commandement qui n'a pas eu un impact immédiat, qui a dû avoir un impact au moment où un ordre d'armée a été publié dans la presse, voulu d'ailleurs par le général Guizan.
Mais Hervé Devec, sur ce mythe du repli, sur cette décision-là, est-ce que c'était pas en même temps aussi une forme d'inconscience, de laisser les plaines, d'abandonner les villes, de laisser les femmes et les enfants, l'économie dans les plaines, et de remonter l'armée dans les montagnes?
Mais on pourrait dire que c'est une sorte de coup de poker basé sur la dissuasion. Effectivement, abandonner la partie habitée de la Suisse, la partie économiquement développée de la Suisse, ça peut sembler presque un crime, entre guillemets. Mais en définitive, est-ce que le commandement de l'armée, parce que l'idée du réduit ne vient pas de Guizan, elle vient de ses collaborateurs, c'était peut-être pas un très grand stratège, mais il savait s'entourer. Le but du réduit était vraiment de dissuader l'Allemagne. D'une part, en faisant bien comprendre que les passages alpins seraient détruits, et d'autre part, que dans cette région de montagne, même l'armée bien moins bien équipée que l'armée allemande avait des chances de tenir assez longtemps.
On va faire réagir Hans-Ulrich Jost. Hans-Ulrich Jost, quel est votre regard, vous, sur cette stratégie du réduit?
On pourrait commencer maintenant un débat qui va durer des
heures. Il nous reste une minute.
Je dis en trois secondes quand même l'essentiel. Curieusement, les officiers qui ont le plus approuvé ce réduit, ce sont les officiers pro-allemands. Par exemple, le fils du général Villet, donc, qui voulait même limoger le général. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était effectivement un bon signe donné aux Allemands que la Suisse ne va pas se défendre, que la Suisse, en fait, va rester calme, va rester en tant que place neutre à la disposition l'Allemagne nazie. D'ailleurs, ce qui était en fait diplomatiquement le moment le plus dangereux, c'est quand les Allemands ont réagi sur le discours du général. général ou notamment sur l'ordre donc de l'armée qu'il a publié, parce que pour eux c'était quand même un acte, disons, de propagande peu amical, et puis on a critiqué ça, et ça c'était très critique pour le Conseil fédéral, parce qu'on était en négociation avec l'Allemagne pour conclure le fameux accord commercial du 9 août 1940, et puis le général a quasiment, avec cette intervention en fait peu réfléchie, non communiquée au Conseil fédéral, il a saboté en quelque sorte les pourparlers. C'est la raison pour laquelle on a dû lui dire, écoutez, il faut faire quelque chose contre, et c'est là qu'il avait aussi qu'il était d'accord de l'idée d'envoyer donc une mission spéciale à Berlin. Il faut savoir ce que ça veut dire, une mission spéciale. Ça veut dire,
en deux mots,
ça veut dire montrer au pouvoir nazi qu'on est d'accord de pas s'incliner, mais de s'organiser à l'intérieur de cette Europe sous domination du Troisième Reich.
Des lectures de l'histoire très, très différentes, mais passionnantes. Merci beaucoup Hervé Devec, merci beaucoup également à vous Hans-Ulrich Jost, historien tous les deux. On en parlerait des heures de ce sujet, mais on doit rendre l'antenne. Bonne soirée, messieurs.